Le premier pas sur la Lune, c'était le 21 juillet 1969. Et le premier pas de l'homme sur la Terre, quand était-ce? Nul ne peut le dire. Et de quel homme parle-t-on? Celui de Néandertal? Celui de Cro-Magnon? Ce qui est sûr, en revanche, c'est que l'un et l'autre ont dû affronter des conditions climatiques difficiles. Tantôt la chaleur torride, tantôt le froid polaire pendant des millénaires. Le Néandertalien n'a pas survécu au gel et dégel. Le Cro-Magnon, lui, c'est-à-dire nous en quelque sorte, s'en est fort bien tiré. Ingénieux, bricoleur, chasseur, artiste à ses heures, notre portrait tout craché, il n'avait pas son pareil pour tirer d'un ours ou d'un mammouth, son supermarché en quelque sorte, de quoi se nourrir, s'éclairer ou se vêtir. Les grands ancêtres. Deux bras, deux jambes, un cerveau qui équivaut à celui des premiers ordinateurs. Les voyez-vous, nos grands ancêtres, perchés tout en haut de notre arbre généalogique? Ils commencent à cueillir les tout premiers fruits de la connaissance dont nous dégustons aujourd'hui la version cultivée. Grâce à leur curiosité, leurs étonnements et leur ingéniosité, nous sommes là aujourd'hui, qui poursuivons l'aventure. Donnons la main à nos grands ancêtres Habilis, Néandertal et Cro-Magnon. Ils nous ont montré le chemin. Sur la piste des premiers hommes. Il fait très froid en ces temps reculés où nous allons tenter de découvrir quelques traces de ceux qui, pour la première fois, ont foulé le sol du territoire français. Une météo détestable. Préparez-vous. Prenez des moufles, un passe-montagne, enfilez les uns sur les autres au moins votre collection de caleçons. Vous entrez dans le congélateur de l'histoire. Et quel congélateur ? Le territoire de la France subit, il y a 500 000 ans, des glaciations qui durent, durent à n'en pas voir la fin. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 70 degrés ou moins 80 degrés. Les vents soufflaient à plus de 200 km/h. Et cela, non pas comme à la télévision, pour des prévisions à 3 jours, mais pendant des périodes interminables. De plus, la calotte glaciaire descend sur l'Europe et couvre la Grande-Bretagne, la Hollande, l'Allemagne. Le massif central est écrasé par les glaces, les Alpes aussi, les Pyrénées. Mais parfois, le vent se calme, la température remonte. Et voici quelques millénaires d'une douceur qui se love dans quelques vallées, qui s'endort sur quelques plaines. Et des hommes laissent alors de leur passage quelques traces interprétées aujourd'hui. Le temps des glaces. Voulez-vous quelques termes techniques? En voici. Il a été décidé de donner aux périodes de glaciation subies par l'Europe le nom des affluents du Danube, car ils ont permis d'en définir l'étendue. Ainsi, on peut quitter le repère de 500 000 ans que nous avons pris et remonter plus loin, au début de l'ère quaternaire, il y a 2 millions d'années. Moins 2 millions d'années, glaciation de Donau, Danube. Fin de l'ère tertiaire, début du quaternaire. Moins 1 200 000 ans, glaciation de Gunz. Moins 500 000 ans, glaciation de Mendel. Moins 300 000 ans, retour au congélateur. Glaciation de Riss, divisée en 3 temps forts. Riss 1, Riss 2 et Riss 3. Moins 10 000 ans, dernière glaciation de l'ère quaternaire. Depuis, mis à part quelques chutes de neige par-ci par-là pour faire du ski ou bloquer les voitures sur les autoroutes, on peut être sûr que le froid a pris ses quartiers d'hiver et d'été. Au pôle. Déjà, la Côte d'Azur. Il est là, l'homme. Depuis longtemps. Très longtemps. Mais disons que ce n'est pas forcément un modèle d'élégance lorsqu'il fait ses premières apparitions. Pourtant, il a choisi d'arpenter la Côte d'Azur, Roquebrune, pour entrer dans l'histoire. À cette époque, c'est-à-dire il y a 2 millions d'années, au début de l'ère quaternaire, et vous ajoutez fièrement, tout heureux de votre nouvelle culture acquise dans la partie précédente, plus précisément pendant la glaciation de Donao, bravo. Donc à cette époque, Saint-Trope, Cannes, Nice sont sous l'eau. Le niveau de la mer est plus élevé d'une centaine de mètres par rapport à nos jours. Et voici notre homme. Hominidé plutôt. 1m30 environ, son corps ressemble au nôtre, avec une quantité raisonnable de poils sur la tête et ailleurs. Son poids, à peine 40 kilos. Voyons maintenant sa tête. Oula ! Le crâne est plat, prolongé de grosses arcades sourcilières qui forment comme une visière. Il a le visage prognate. Vous voulez savoir ce que cela veut dire ? Je ne vous le dirai pas. Cherchez dans le dictionnaire, non mais. Donc, il a les mâchoires proéminentes. Vous le savez bien que je ne vous laisserai pas tomber. Son cerveau, tout petit, 700 cm3, alors que le nôtre se situe aux environs de 1400 cm3. L'Homo habilis. Un singe alors ? Non, un homme. Mais plutôt un pré-homme. Une sorte de prototype, de matrice, de brouillon. Mais finalement pas si brouillon que ça, parce que déjà, il s'est taillé des pierres pour découper sa viande. Comment peut-on le décrire si précisément alors qu'il ne reste rien de lui, sauf ses traces de son passage dans une grotte ? C'est qu'un rapprochement a été effectué avec un autre homme vivant au Tanganyika en Afrique. L'homme d'Oldowe, qui possède les mêmes techniques, les mêmes instruments et les mêmes habitudes. C'est le docteur Louis Leakey, né au Kenya, qui l'a découvert en 1960 et lui a donné en 1964 le nom d'homme habile, adroit, Homo habilis. Des animaux mangés tout crus. Ce petit homme qui vit sur la Côte d'Azur en petits groupes est entouré d'une faune étonnante. Des hippopotames, des rhinocéros, des éléphants, des hyènes, des lions, des tigres, des loups, des sangliers, des bêtes à cornes immenses, parfois des baleines. Certains prétendent qu'on voit encore aujourd'hui sur la Côte d'Azur ces sortes d'animaux, qu'ils se seraient transformés en métaphores, mais c'est nettement exagéré. Ils les chassent, les emportent dans la grotte où ils logent, les découpent et les mangent tout crus. Parfois, lorsqu'ils sont coriaces, il attend qu'ils soient putréfiés. On peut imaginer sur le territoire français, au fil des rémissions glaciaires, d'autres petits groupes de la sorte, qui se développent au milieu de la même faune, possèdent les mêmes habitudes, et sont victimes tôt ou tard de la soudaine survenue d'une période de glaciation interminable. Voilà donc le premier homme qui serait apparu sur le sol français. L'allure d'un bambin, la tête simiesque, mais déjà, dans son petit cerveau, des solutions techniques pour tailler les pierres à la dimension de ses mains. Un proto-ingénieur, en quelque sorte.
Paléolithique. Le terme paléolithique vient du grec paléo, ancien, et lithos, pierre. Paléolithique, sous des dehors un peu savants, signifie donc tout simplement pierre ancienne. Le paléolithique désigne la plus longue période de la préhistoire, qui va du Dono au Vurme IV, ce qui couvre environ 2 millions d'années. Ce n'est pas rien. Pendant toute cette époque, on taille les pierres sur les deux faces, des bifaces, pour en faire des outils et des armes. Voilà pourquoi on donne pour équivalent à paléolithique, âge de la pierre taillée.